tellement les cas s'y présentaient précis et complets. Dès lors, à mesure que les faits s'accumulaient et se classaient dans ses notes, il avait tenté une théorie générale de l'hérédité, qui put suffire à les expliquer tous. Problème ardu, et dont il remaniait la solution depuis des années. Il était parti du principe d'invention et du principe d'imitation, l'hérédité ou reproduction des êtres sous l'empire du semblable, l'innéité ou reproduction des êtres sous l'empire du divers. Pour l'hérédité, il n'avait admis que quatre cas. L'hérédité directe, représentation du père et de la mère dans la nature physique et morale de l'enfant. L'hérédité indirecte, représentation des collatéraux, oncles et tantes, cousins et cousines. L'hérédité en retour, représentation des ascendants, à une ou plusieurs générations de distance. Enfin, l'hérédité d'influence, représentation des conjoints antérieurs, par exemple du premier mâle qui a comme imprégné la femelle pour sa conception future, même lorsqu'il n'en est plus l'auteur. Quant à l'innéité, elle était l'être nouveau, ou qui paraît tel, et chez qui se confondent les caractères physiques et moraux des parents, sans que rien d'entre eux semble s'y retrouver. Et dès lors, reprenant les deux termes, l'hérédité, l'innéité, ils les avaient subdivisés à leur tour, partageant l'hérédité en deux cas, l'élection du père ou de la mère chez l'enfant, le choix, la prédominance individuelle, ou bien le mélange de l'un et de l'autre, et un mélange qui pouvait affecter trois formes, soit par soudure, soit par dissémination, soit par fusion, en allant de l'état le moins bon au plus parfait. Tandis que pour l'innéité, il n'y avait qu'un cas possible, la combinaison. Cette combinaison chimique qui fait que deux corps mis en présence peuvent constituer un nouveau corps, totalement différent de ce dont il est le produit. C'était là le résumé d'un amas considérable d'observations, non seulement en anthropologie, mais encore en zoologie, en pomologie et en horticulture. Puis, la difficulté commençait lorsqu'il s'agissait, en présence de ces faits multiples, apportés par l'analyse, d'en faire la synthèse, de formuler la théorie qui les expliqua tous. Là, il se sentait sur ce terrain mouvant de l'hypothèse que chaque nouvelle découverte transforme. Et, s'il ne pouvait s'empêcher de donner une solution, par le besoin que l'esprit humain a de conclure, il avait cependant l'esprit assez large pour laisser le problème ouvert. Il était donc allé des gémules de Darwin, de sa pangénèse, à la parigénèse de Haeckel, en passant par les stirpes de Galton. Puis, il avait eu l'intuition de la théorie que Westman devait faire triompher plus tard. Il s'était arrêté à l'idée d'une substance extrêmement fine et complexe, le plasma germinatif, dont une partie reste toujours en réserve dans chaque nouvel être, pour qu'elle soit ainsi transmise, invariable, immuable, de génération en génération. Cela paraissait tout expliqué. Mais quel infini de mystères encore ! Ce monde de ressemblance que transmettent le spermatozoïde et l'ovule, où l'œil humain ne distingue absolument rien, sous le grossissement le plus fort du microscope. Et il s'attendait bien à ce que sa théorie fût caduque un jour. Il ne s'en contentait que comme d'une explication transitoire, satisfaisante pour l'état actuel de la question, dans cette perpétuelle enquête sur la vie, dont la source même, le jaillissement, semble devoir à jamais nous échapper. Ah, cette hérédité, quel sujet pour lui de méditation sans fin. L'inattendu, le prodigieux, n'était-ce point que la ressemblance ne fût pas complète, mathématique, des parents aux enfants? Il avait pour sa famille d'abord dressé un arbre logiquement déduit, où les parts d'influence, de génération en génération, se distribuaient moitié par moitié, la part du père et la part de la mère. Mais la réalité vivante, presque à chaque coup, démentait la théorie. L'hérédité, au lieu d'être la ressemblance, n'était que l'effort vers la ressemblance, contrarié par les circonstances et le milieu. Et il avait abouti à ce qu'il nommait l'hypothèse de l'avortement des cellules. La vie n'est qu'un mouvement, et l'hérédité étant le mouvement communiqué, les cellules, dans leur multiplication les unes des autres, se poussaient, se foulaient, se casaient, en déployant chacune l'effort héréditaire. De sorte que, si pendant cette lutte, des cellules plus faibles succombaient, on voyait se produire, au résultat final, des troubles considérables, des organes totalement différents. L'innéité, l'invention constante de la nature à laquelle il répugnait, ne venait-elle pas de là? N'était-il pas, lui, si différent de ses parents, que par suite d'accidents pareils, ou encore par l'effet de l'hérédité larvée à laquelle il avait cru un moment? Car tout arbre généalogique a des racines qui plongent dans l'humanité jusqu'au premier homme. On ne saurait partir d'un ancêtre unique. On peut toujours ressembler à un ancêtre plus ancien, inconnu. Pourtant, il doutait de l'atavisme. Son opinion était, malgré un exemple singulier pris dans sa propre famille, que la ressemblance, au bout de 2 ou 3 générations, doit sombrer en raison des accidents, des interventions, des 1000 combinaisons possibles. Il y avait donc là un perpétuel devenir, une transformation constante dans cet effort communiqué, cette puissance transmise, cet ébranlement qui souffle la vie à la matière et qui est toute la vie. Et des questions multiples se posaient. Existait-il un progrès physique et intellectuel à travers les âges? Le cerveau, au contact des sciences grandissantes, s'amplifiait-il? Pouvait-on espérer à la longue une plus grande somme de raison et de bonheur? Puis c'était des problèmes spéciaux, un entre autres, dont le mystère l'avait longtemps irrité. Comment un garçon, comment une fille dans la conception? N'arriverait-on jamais à prévoir scientifiquement le sexe, ou tout au moins à l'expliquer? Il avait écrit sur cette matière un très curieux mémoire, bourré de faits, mais concluant en somme à l'ignorance absolue où l'avaient laissé les plus tenaces recherches. Sans doute,